Est-ce que ça va comme ça? Tu captes bien ma voix? Ouais. Il faut grandir, il me dit. Mais je pense qu'à mon âge, j'ai seulement l'espérance de grandir dans le Seigneur, grandir physiquement. Bon, peut-être. Si j'ai la guérison que j'aimerais avoir, je grandirai de peut-être 1 ou 2 centimètres. On ne sait jamais. Hein. C'est toujours possible. Tout est possible avec le Seigneur. Ah, que c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Cette présence vivante est remplie de bienveillance et de nous oublier nous-mêmes, d'être vraiment concentrés sur Jésus. Vraiment, merci. J'ai beaucoup apprécié ce temps de louange et d'adoration qui était vraiment centré sur Jésus. C'est super. Merci. Parce que c'est du boulot, hein, la louange. C'est les seuls dans l'Ancien Testament qui ne faisaient que la louange. Ils n'avaient pas d'autres corvées à accomplir, les musiciens et les chantres. Ils n'avaient que ça à faire. Donc voilà, je veux aussi honorer ceux qui travaillent dans ce domaine. C'est un grand privilège, c'est une joie, mais c'est du travail. Donc merci. Alors moi, pour ceux qui n'ont pas été là, bon, je m'excuse parce qu'en fait, je poursuis avec une série de messages et le grand titre, ah, je l'avais ce matin, j'ai oublié. Non, c'est les alliances de Dieu. C'est le grand titre. Et nous sommes en train de regarder des aspects différents de l'alliance de Dieu. Nous avons déjà vu le thème du jubilé, qui est décrit en Ésaïe 61. Et nous avons vu le fait qu'il y a la remise de dettes, la liberté des captives, la restauration. Et nous avons mentionné que parfois, nous avons des conflits, nous avons des choses qui nous posent problème, mais c'est parce qu'il y a deux royaumes en conflit sur la terre. Donc nous sommes appelés à faire partie du royaume des cieux, le royaume de Dieu, là où règne l'ordre de Dieu. Mais nous sommes confrontés sur la terre jusqu'à la fin des temps avec l'autre royaume, le royaume des ténèbres, d'où nous avons été rachetés. Donc parfois, le conflit est en nous, parfois elle est en dehors de nous. Donc, ne nous laissons pas non plus culpabiliser quand le conflit vient de l'extérieur. Parce qu'il faut bien faire la distinction. Hein. Parfois, c'est nous qui avons péché, nous avons besoin de nous remettre en ordre avec Dieu. Parfois, la difficulté relève du fait que, voilà, nous sommes sur un terrain de guerre, nous sommes dans une zone de conflit, ah ben, on nous lance des missiles. Hein. D'accord? Donc, si on nous lance un missile, ben, il faut mettre le bouclier en place, dire, voilà, par la foi, je mets le bouclier en place. Je me mets sous l'alliance de Dieu. Mais je n'ai pas à me confesser des péchés de l'attaque de l'ennemi. Ça, non. On a à résister, on a à le repousser. Et on a aussi à aller dans son territoire pour reprendre ce qui appartient de droit à Dieu. Parce que de ces deux royaumes, il y a un seul qui est légitime. Ça, c'est le royaume de Dieu. L'autre, il va disparaître. Et il n'a pas d'appui auprès de Dieu. Mais pour des raisons... bon, il y a des choses... Moi, personnellement, je trouve qu'il y a quand même des choses... Je dis, bon, il y a parfois des raisons un peu insondables dans le cœur de Dieu. On est amené à lui faire confiance. Et ça, c'est un des mystères, je dirais, que voilà, nous restons dans une zone de conflit. Mais Dieu veut vraiment nous aider à progresser et à devenir véritablement ses enfants. Et il va nous conduire à travers tout cela. Donc pour les raisons que sans doute nous comprendrons complètement dans les cieux, voilà, il nous place dans une zone de conflit. Et nous avons... à avancer avec lui dans ce contexte. Alors, Quelle est la réponse? Quel est le principe de ce royaume? On l'a vu avec Abraham. À travers Abraham, nous avons commencé à entamer. Comment marche ce royaume de Dieu, ce royaume céleste auquel nous appartenons? Comment est-ce qu'on peut marcher? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, nous avons vu qu'il y a l'appel de Dieu et la réponse de la foi. Donc, il y a toujours, toujours ce principe. À travers toutes les alliances de Dieu, il y a l'appel de Dieu, donc il y a la voix de Dieu qui nous interpelle personnellement à travers les Écritures, mais qui nous est adressée personnellement par l'Esprit Saint. Et Dieu cherche une réponse de foi. Alors une réponse de foi, c'est une décision. Je décide de croire Dieu. Peut-être mes émotions ne suivent pas, peut-être mes circonstances ne suivent pas, mais je prends une décision de dire, oui, je choisis de croire Dieu plutôt que moi-même ou ce que j'entends autour de moi. Ça, c'est une décision. Mais attention, c'est une décision qui est basée aussi sur ce qui est déjà révélé. On a un fondement solide pour notre décision. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous présenter le rôle de Jésus dans l'établissement de la nouvelle alliance. Nous sommes un peu allés dans l'ancien. Bon, le jubilé est annoncé dans l'Ancien Testament, mais il annonce en fait la nouvelle alliance. Et je vous invite à être plutôt dans la lettre aux Hébreux, même si bon, toute la Bible, il y a toujours des références à d'autres parties. Bon, nous allons nous concentrer surtout dans l'épître aux Hébreux. Et on va commencer chapitre 4 et verset 14. Alors, je vais vous lire le passage, c'est parce que ceux qui ne sont pas là, qui vont écouter le message, ils ont besoin du texte. Voilà. Donc, Hébreux 4, versets 14 et 16. Voilà, 14, 15 et 16. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'à la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Et je veux aussi dire sans commettre de faute. Il n'a pas fauté, il ne s'est pas planté. Il est resté entièrement dans l'obéissance. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Donc, on voit ici que Jésus, il y a plusieurs aspects, bien sûr, du ministère de Jésus, mais là, on va focaliser sur l'aspect qu'il est le souverain sacrificateur. Il est prêtre. Et peut-être, moi je pense qu'à notre époque, nous avons perdu un peu vraiment le sens de prêtre. Peut-être pas complètement. Et peut-être il se trouve encore dans les domaines qu'on n'aurait pas associés à ça. Parce que qu'est-ce que ça veut dire prêtre? Quel est le rôle du prêtre? Véritable rôle du prêtre. Bon, nos amis catholiques ont peut-être plus tout de suite des réponses qui sont justes. Quel est le rôle du prêtre, d'un prêtre? Bon, je suis sûre que vous avez des éléments de réponse. Hein. Mais si je pose ça à l'extérieur, les gens vont dire, bon, c'est quelqu'un qui chante, qui conduit la messe, mais ils ne savent pas du tout le sens de tout ça. Pourtant, la réalité du rôle du prêtre, on le retrouve dans d'autres domaines, complètement en dehors d'un culte religieux. Bon, je vous laisse un petit peu en suspense là. Hein. Je vous laisserai. Bon, je vais simplement vous dire quand même un des sens, c'est quelqu'un qui est intermédiaire entre les hommes et Dieu. Bon, ça on retrouve un peu plus tard. Ah, je ne l'ai pas noté, j'aurais dû noter. Pourquoi j'ai fait ça ? Oui, voilà, ouais, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Chapitre 8 et verset 6. Chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, Jésus a été chargé d'un service bien supérieur, car il est l'intermédiaire d'une alliance bien meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Donc il y a une comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Je ne vais pas y aller dans ce sujet. Hein. Peut-être Véronique le fera quand elle nous fait une étude approfondie sur le livre. Hein. Je pense qu'on a prévu ça. On va en reparler. Donc, je ne vais pas aller dans ce domaine-là parce que ça prendra une bonne heure. Non, je ne sais pas. Mais juste pour dire qu'il y a le mot intermédiaire. Donc, voilà, déjà un mot qui nous aide à comprendre le rôle. Donc, le prêtre, il est intermédiaire. Il est quelqu'un qui s'interpose entre Dieu et les hommes. Ça, c'est un aspect. Jésus est l'intermédiaire, donc il transmet une alliance, un nouvel accord. D'accord ? Donc, il est l'intermédiaire d'un nouvel accord entre Dieu et les hommes. Attention, ça passe par lui et personne d'autre. C'est vraiment très important. Alors, quelle est la nature ? Enfin, non, je vais revenir à ma question maintenant. Est-ce que vous voyez intermédiaire ? Est-ce qu'il y a un autre mot qu'on pourrait mettre aussi, intermédiaire ? Voilà. Colette, tout de suite. Elle l'avait tout à l'heure, n'est-ce pas ? Non, si. Bon, oui, le mot médiateur. Ça nous est peut-être plus familier dans le contexte légal de droit. Il y a l'arbitration, médiateur. Moi, j'ai regardé un film l'autre jour. Et il y a aussi celui qui essaye de, quand il y a une prise d'otage aussi, il y a aussi quelqu'un qui est médiateur. Bon, il met sa vie en danger, mais quelle image! Quelle image de l'intervention de Jésus, parce que voilà, il a mis sa vie en danger et il a essayé d'être médiateur, voilà, entre des gens en conflit dans une situation où il y avait beaucoup d'hostilité. Quelle image merveilleuse. Ça, c'est le rôle d'un prêtre, en fait. Donc cette idée de médiateur, on l'a, la réalité de ça, l'importance de ça, on l'a conservé. C'est ce que j'aime beaucoup avec les vérités spirituelles. Il y a toujours quelque chose de très concret qui reflète cette vérité. Parce que tout ce que nous avons autour de nous et tout ce qui est dans la société humaine, bon, finalement, son origine, même si c'est pas reconnu, c'est le spirituel. Hein. On est bien d'accord, les choses invisibles existaient avant les choses visibles. Donc les choses visibles, bon, c'est une image cassée, briser une image où il faut faire un tri, mais ça existe toujours. Il y a toujours un lien entre ce qui est sur la terre visible et ce qui soutient, ce qui est invisible. Donc le rôle de prêtre est un rôle de médiateur. C'est pour conciliation. Il y a aussi l'idée de réconciliation. Et donc, je voudrais introduire un autre mot. qui prend son sens dans les mots que nous venons de dire. C'est le mot intercession. Parce que là aussi, je pense que c'est un mot dont nous avons perdu de vue le sens. Mais l'intercession, c'est aussi ça. C'est la médiation. C'est s'interposer entre Dieu et les hommes. La croix est vraiment l'exemple le plus profond d'intercession. Et on sait qu'à la croix, il n'y a pas juste le côté Jésus s'interpose entre Dieu et les hommes pour les réconcilier, mais aussi, et c'est une autre partie du rôle du prêtre, il s'interpose entre qui ? Mais je ne dirais pas entre Dieu et Satan, mais entre les hommes et Satan. Parce que Dieu, il est assez grand, hein, il se débrouille très bien avec lui. Il a déjà viré chez lui, sans problème. Mais nous, par contre, on a du mal. Donc, l'intercession, le rôle du prêtre, c'est aussi de protéger et de se mettre entre les hommes, enfin les femmes, bien sûr, je parle de l'humanité, et l'ennemi. Donc il y a les deux facettes. Et on revient, voilà, l'épée à deux tranchantes. Voilà, l'épée à deux tranchantes. Réconciliation et aussi opposition à ce qui est néfaste. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que nous-mêmes, nous sommes appelés à être des prêtres. Donc tout ce qui est Jésus, nous sommes appelés à être comme lui. Donc si nous ne comprenons pas vraiment tous les aspects de son ministère en tant que prêtre, nous n'allons pas non plus bien comprendre notre appel. Alors, je vais peut-être vous choquer un peu, mais moi je tique. Même je commence à tiquer beaucoup quand les gens disent « Ah ben, certaines sont appelées à intercéder, intercession. » Bon, ça veut dire que certains sont appelés à être comme Jésus et d'autres non, dans l'Église. Je sais pas. Moi, je suis pas tellement d'accord. Mais ça veut dire, en fait, non, je condamne pas les personnes. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. D'accord? On n'a pas compris. Et on n'a pas compris le fait que cette action-là est fondamentale. Elle est fondamentale à tout ministère chrétien. Parce que c'est l'acte fondateur, quand même, de l'Alliance. Hein. C'est l'acte fondateur. Sans cette intercession, nous sommes nulle part. Vous êtes bien d'accord avec moi? Alors, sans notre intercession, Dieu, dans sa sagesse, il a dit, voilà, ils sont bien imparfaits, ils sont un peu de tous côtés. Bon, il y en a qui arrivent le matin, alors un peu décoiffés comme moi, parce que je me presse un peu trop, j'oublie quelque chose. Il y en a d'autres qui sortent. C'est bien, ils sont levés depuis 6 heures du matin, ils se sont coiffés, ils ont eu le temps, je sais pas, de faire 2 heures d'intercession avant d'arriver à l'église. Bon, mais c'est juste pour vous dire, nous arrivons de toutes sortes, mais Dieu quand même, il nous a regardé et dit, vous êtes mon peuple, vous êtes mes bien-aimés, et je vous confie les mêmes responsabilités que mon fils. Et je vous laisse pas seul pour vous débrouiller. Ah, je suis toujours avec vous, je vous donne mon esprit. Je vous libère tout ce qu'il vous faut. Il suffit de me le demander et de persévérer. Hein. Donc, je vous encourage vraiment à creuser davantage cette idée. Hein. Il y a un très bon livre, si vous ne l'avez pas lu. Bon, je viens de le lire, La prière d'intercession. Et c'est un Américain qui s'appelle Dutch Sheets, mais vraiment, il parle de la prière d'intercession, mais il explique vraiment les aspects d'intercession d'une manière, moi je trouve vraiment profonde et qui nous interpelle, qui m'interpelle, vraiment. Alors, c'est pour les évangélistes, hein. Il y a tout un chapitre qui concerne l'intercession pour les gens qui ne sont pas sauvés. Donc c'est pas que pour les intercesseurs, c'est pour tous ceux qui souhaitent voir le royaume de Dieu s'avancer. Voilà. On est d'accord ? On veut tous que le royaume s'avance. Sinon, bah, j'arrête. Hein. Non, non. Je pense que vous êtes d'accord. Alors, pour nous encourager, on va revenir à la nature de la prêtrise de Jésus. Bien sûr, Jésus, c'est l'incomparable. Nous, nous sommes en chantier. Hein. Nous sommes toujours en route vers la perfection. Nous allons y arriver quand nous sommes aux cieux. Mais nous sommes toujours en progression sur la terre, donc il ne faut pas se décourager. Dieu dit, je vous change de gloire en gloire, pas de misère en gloire. Ça, c'était la conversion. Hein. Ça, c'était, on sort du royaume des ténèbres, on est dans le royaume des cieux. Maintenant, on avance de gloire en gloire, tout en sachant que nous restons des êtres faibles et nous dépendons de Dieu. Mais sa vision de nous est vraiment pas, comment dirais-je, il est pas en train de nous miner. Il est en train de nous encourager. Allez-y. Allez-y. De gloire en gloire, vous ressemblez chaque jour un peu plus à mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis toute ma confiance. Alors, quelle est la nature de la prêtrise de Jésus? Ça, je pense que vous pouvez sans doute me le dire. On va reculer là un petit peu. Chapitre 7 et verset 26. Et je vais lire jusqu'à chapitre 8, verset 2. Voilà, là, il y a plusieurs éléments. Oh, oui, il faut aussi que je dise le verset 24. Verset 24, chapitre 7. Jésus vit pour toujours et sa fonction de prêtre est perpétuelle. Jésus est donc le grand prêtre qu'il nous fallait, verset 26. Il est saint, sans défaut, sans péché. Il a été séparé des pécheurs et élevé très haut dans les cieux. Non, je vais sauter un peu, mais on voit qu'il a fait une fois pour toutes le sacrifice. Hein. C'est pas un sacrifice qui est répété. Elle est parfaite. Donc elle n'a pas besoin d'être faite. Voici le point le plus important de ce que nous avons à dire. C'est bien un tel grand prêtre que nous avons, lui qui s'est assis dans les cieux à la droite du trône de Dieu, la puissance suprême. Il exerce ses fonctions dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la tente véritable, dressée par le Seigneur et non par un homme. Donc il y a plusieurs choses dans ça qui nous parlent de la nature. J'ai relevé éternel, il y a aussi le mot perpétuel, il y a le mot parfaite, céleste. C'est un ministère qui s'exerce au plus haut des cieux. Donc là aussi, on revient à notre idée médiateur. Il est médiateur, mais c'est médiateur qui est à côté de Dieu, le Père, en égalité. Et celui qui fait l'ambassadeur, si je peux dire de ça, celui qui est envoyé avec les messages, il n'est pas mentionné là, mais c'est le Saint-Esprit. D'où la nécessité d'être conduit par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui apporte les instructions. Voilà, le Père, le Fils, ou le Fils, il s'interpose et dit, voilà, voyez, le Père dit, oui, je vois, je suis d'accord, vous pouvez envoyer. Donc après, hop, Saint-Esprit, message, il arrive. Voilà. ils sont toujours en train de travailler ensemble. Quelles en sont les fonctions ? Nous les avons vues, mais je vais juste très vite les redire. Donc, il s'interpose entre les hommes et Dieu. Il s'interpose entre les hommes et l'ennemi. Il y a un mot que Dodd Sheet a repéré en hébreu qui est paga. Alors, j'aime bien ce mot parce qu'il y a, c'est le mot intercession en fait, mais il a beaucoup de sens. Donc, nous en avons vu un peu. Je vais juste lire ça. Donc, il décrit ce qui s'est passé à la croix. Or, c'est bon. Hein, voilà. Les fonctions. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Donc, en sachant que c'est, on parle de la fonction, hein, de la fonction de paga, d'intercession. Et le mot veut dire aussi rencontre. Alors, le titre du chapitre, il a pris d'un film, je pense. Rencontre, le bon, le mauvais et l'horrible. Je pense que c'est un film. En anglais, c'est The Good, The Bad and The Ugly. L'horrible, c'est... voilà. Ugly. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Quelles sont les fonctions? Et ça passe toujours. Le travail de la croix, ça se fait toujours. La miséricorde rencontre le jugement. La justice rencontre le péché. La lumière rencontre les ténèbres. Donc, ça, c'est l'autre côté. L'humilité rencontre l'orgueil. L'amour rencontre la haine. La vie rencontre la mort. La puanteur de l'amour rencontre l'antidote de la résurrection. Conclusion. Ben, les bons ont gagné. Donc l'intercession, c'est vraiment importante. Hein. Moi, je trouve vraiment que c'est un principe fondateur là, qu'on a repéré dans le ministère de Jésus en tant que prêtre, et ministère qui nous est confié. Et si tout ça vous semble beaucoup, une grande responsabilité, bon, n'oublie pas d'aller voir le film. N'oublie pas, quand vous voyez les films où il parle de médiateur ou quelqu'un qui intervient, c'est un aspect du ministère de Jésus. Je ne veux pas dire que c'est l'image exacte, hein, parce que voilà. Mais il y a quelque chose. Alors soyez encouragés, parce que Jésus nous rend capable d'être ministre. Et là, on peut mettre le mot médiateur, ce qui transmet une nouvelle alliance. Et si vous voulez trouver une référence pour ça, c'est dans l'épître des Corinthiens, de Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Et chers amis, j'ai fini, parce que c'était ce que je voulais vous dire ce matin, mais je me rends compte que c'est très très dense. J'espère que je vous ai donné des pistes pour creuser vous-même. J'ai cité certaines choses dans Hébreux, mais bon, tout l'épître est à relire et à voir. Bon, il y a aussi le renvoi à Melchizedek, je n'ai pas mentionné, mais on trouve aussi la nature aussi, c'est le roi de justice, le roi de paix. Donc ça aussi, c'est la nature, hein, la nature de la prêtrise de Jésus, c'est une prêtrise de paix. Voilà, ce mot shalom et de justice. On peut peut-être prier, oui. Il y en a qui veulent prier.
de ton rôle en tant que médiateur, ministre, et de cet appel à être comme toi, ministre. Seigneur, je sens que tu nous adresses cet appel, souffle de vie et source de vie. C'est très proche, hein? C'est très très proche. Et tu nous appelles à être ces adorateurs, louangeurs, mais aussi ministres et intercesseurs. C'est vraiment un appel que tu as sur pour ces deux groupes, pour d'autres certainement aussi. Mais Dieu veut réveiller cet appel. Et Seigneur, nous nous laissons réveiller dans cet appel. Nous ne disons plus, c'est pas ma part, c'est pas mon rôle. C'est le rôle de quelques spécialistes. Nous lions cette parole. Nous refusons cette parole. Et Seigneur, nous acceptons cet appel d'être ministre, intercesseur, médiateur. Entre toi et les hommes, entre Satan et les hommes. Nous sommes tellement témoins de souffrance, de détresse, et tu nous appelles à être canaux de bénédiction. Tu as élevé l'Église pour être un moyen de bénir le monde. Et Seigneur, voilà, nous nous réveillons à cet appel ce matin. Et nous te disons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas saisi des opportunités, ou toutes les fois où nous nous sommes laissés endormis. Mais Seigneur, nous sommes dans l'espérance ce matin, parce que tu es le Dieu qui pardonne, le Dieu qui nous ressaisit, le Dieu qui nous relance, qui nous remet sur les rails. Tu veux faire de ce lieu un lieu d'intercession, un lieu d'adoration, un lieu d'intercession, parmi d'autres. Oh Seigneur, merci pour ton pardon et merci de nous donner plus de révélations. Encore, de comprendre davantage ton rôle, notre rôle, l'autorité que nous avons. Nous voulons comprendre, Seigneur, l'autorité que tu nous donnes. Nous voulons saisir cette clé que tu nous donnes de l'autorité pour vraiment entrer, Seigneur, dans ton appel. Alléluia, merci Seigneur, louange à toi, si l'un ou l'autre veut aussi élever la voix et compléter cette prière qu'il peut le faire librement. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Merci Seigneur.